Encore une fois, c'est une parfaite transition. Passons peut-être justement aux questions sur les formes d'écriture, parce que là, tu nous as...
Oui, justement. C'est... Mais en fait, oui, tout est calculé. C'est un complot dialectique et rhétorique. Oui, non, parce que justement, alors, un élément qui pourrait paraître annexe, mais qui ne l'est pas du tout et que je juge essentiel pour ma part, m'a frappé donc, dans vos travaux, et en fait, c'est l'attention que vous portez à la forme. Qui s'articule à une volonté, hein, tous deux, donc je vous encourage à lire leurs ouvrages, de rendre votre propos vivant, accessible, percutant, et en cultivant une écriture vraiment agréable à lire. Et ce n'est pas quelque chose qui est juste anecdotique. Alors, comment est-ce que... j'en parlerai après de ça, parce que j'ai une autre question. Comment est-ce que vous voyez ça tous deux? Est-ce que cette volonté de cultiver... Enfin, je sais pas, de cultiver cette écriture agréable, percutante, vivante, est-ce que c'est lié à vos terrains de spécialité ou est-ce que voilà, c'est quelque chose que vous feriez dans l'absolu? Enfin, je me demande en fait si le fait que les Afriques et l'Afrique subsaharienne soient quand même relativement peu connues au regard d'autres aires géoculturelles, hein, on le voit bien dans le cadre des Conspiracy Studies, est-ce que ça vous a poussé à chercher d'autres formes d'écriture, à cultiver peut-être un petit peu plus l'assentiment de vos publics, enfin, ouais. Comment vous posez la forme, question formelle qui vient de la littéraire?
Ah voilà, c'est une question dure. Bon, sur l'absence de jargon, j'ai toujours écrit comme ça, les sciences sociales sont attaquées, enfin, genre, on va pas survivre si on écrit des textes qui sont pas lisibles. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, j'ai eu un vrai problème quand j'ai fait mes enquêtes, et j'ai passé des années à vouloir accumuler le plus de matériaux, qui étaient des matériaux incompatibles entre eux. C'est-à-dire qu'ils racontaient des vérités qui ne pouvaient pas être mises ensemble. Et donc j'étais un peu embêtée aussi parce que mon terrain n'arrêtait pas de me répéter « Mais toi, t'es pro ou contre ces couturiers ?» Je ne savais pas répondre à cette question. Je voulais raconter à la fois l'utopie politique que j'admire encore aujourd'hui. J'adore cette musique, le théâtre est assez drôle. Enfin, et en même temps, j'ai travaillé avec les descendants de ces 50 000 morts. Donc, cette forme s'est imposée à moi comme un peu une vision panoptique. Pardon, Didier Huberman dit que les sciences sociales, c'est un art du montage et un art du kaléidoscope. Et en fait, c'est assez juste pour mon terrain. C'est-à-dire que c'était tout à fait ça que je voulais raconter. Un espèce de gigantesque kaléidoscope qui vous donne à vous la vision de ces violences politiques croisées et de faire en sorte, si possible, que vous trouviez ça limpide. Donc ça, c'est pour le gros. Pour le petit, c'était une des contraintes aussi de l'éditeur, de raconter un petit récit avec de l'illustration, avec très peu de notes de bas de page, qui raconte de nouveau à la fois les utopies politiques de ce couple-là, Miriam Makeba, Stokely Carmichael.
Donc juste que tu précises, donc c'est un chapitre du plus gros, ouais, focalisé sur...
sur ce couple-là et sur leurs archives guinéennes. C'est-à-dire, on connaît très bien leur vie états-unienne, donc la grande chanteuse sud-africaine, le grand leader des droits civiques états-uniens, qui passe en fait la moitié de leur vie en Guinée, et ça, personne ne le sait, et à partir des archives guinéennes, raconter ces utopies globales des années 70, tout en racontant aussi le pic de la répression politique. Voilà. Et ensuite, la conférence performée, c'est autre chose, on pourra en discuter.
Moi, je trouve ça la question la plus difficile parmi toutes les belles questions. Je crois que je publie beaucoup moins que Lara, mais c'est peut-être aussi parce que je prends beaucoup de temps pour écrire ça. Ça me permet de clarifier un peu ma pensée. Je crois que sinon... Et c'est vrai que j'ai eu exactement le même problème, entre guillemets. L'hétérogénéité est énorme, que ce soit sur le passé ou sur le contemporain. Il y a tellement de différentes idées qui circulent que, par exemple, quand j'ai travaillé sur la question des gants, c'était extrêmement difficile de mettre tout ensemble. Ouais, et au fond, je crois que c'est ça aussi ce qui m'a poussé vers la question de l'incertitude, parce que c'est vraiment aussi c'est aussi mon incertitude par rapport à qu'est-ce que je vais écrire là-dessus. Et l'idée de en même temps être suffisamment clair pour exprimer cette incertitude était importante, parce que sinon il n'y a pas de valeur dans ce que je fais. Mais je crois que ça, l'idée de capter aussi une absence de clarté d'une façon claire, c'est un peu ça ce que j'essaie de faire.
Merci beaucoup. Trois questions et puis après on laissera la parole si vous voulez voilà les interroger, leur poser des questions sur un certain nombre de points qu'ils ont évoqués. Dernière question. Alors pour aller un peu plus loin encore après cette écriture sur la forme toujours et sur l'intérêt que vous portez à l'image, aux images. Qui apparaît assez essentiel, mais pas juste dans une visée voilà, illustrative, plaisante, agréable, hein, pour étayer un peu votre texte. Et c'est là que j'aimerais revenir sur la question de l'incertitude, la question de l'insaisissable, qui est à la fois liée aux dynamiques politiques et puis aux imaginaires du complot. Est-ce que vous pouvez réagir un petit peu à ce propos ? En fait, en quoi le recours à l'image, notamment à la photographie, a pu constituer pour vous un appui, un tremplin ou peut-être même un obstacle directement à vos propres travaux. Je ne sais pas qui veut commencer.
Alors, le livre qui va bientôt, j'espère, paraître, The Politics of the Unknown, Les politiques de l'inconnu, c'est en fait le dialogue entre image et texte, et aussi entre art et science. Et on travaille ensemble avec Aurélien Gillier, qui est photographe, et qui était historien. Donc en fait, il vient des sciences, mais c'est aussi son refus théorique de mettre les choses, c'est-à-dire en clair, englobant, c'est-à-dire cette colonialité de la théorie de se mettre sur tout et d'expliquer tout, il la refuse. Et c'est un peu aussi, au début, on pensait à une contestation. Donc, qui peut raconter quelle histoire? Qui peut faire quoi? Qu'est-ce que lui, il peut faire avec les images? Qu'est-ce que moi, je peux faire par le texte? En invitant beaucoup de collègues autour de nous qui vont essayer la même chose, d'autres photographes, d'autres peintres, d'autres sculpteurs, d'un côté, notamment du Burkina, mais surtout de la Guinée, et de l'autre côté, des anthropologues, des historiens, des politologues, et ce que eux ils peuvent produire par un texte scientifique. Ce qui est intéressant par rapport à l'image et la théorie du complot, c'est que c'est un champ qui est presque inexistant. Il y a une grande exposition au Metropolitan Museum à New York, le Met. Ça a été publié, je crois, en 2018-2019. Et en gros, c'est pas très intéressant ce qu'on voit. Parce que le complot, il échappe à la visualité. Il n'est pas là, il est dans l'imaginaire. Donc c'est quelque chose qui peut-être est dans nos têtes et qui nous excite peut-être un peu sur le niveau mental. Mais de le mettre sur papier ou en image, extrêmement difficile. Des fois même ridicule. En fait, ça devient le symbolisme conspiratoire avec Satan, avec la marionnette, ainsi de suite. C'est très, c'est pas très intéressant. Donc, on s'est dit, bon, ce qu'on a vu, c'est en quelque sorte, c'est ce qui échappe, ce qui est intéressant. Donc, quand Aurélien a pris ses photos ou quand d'autres peintres ont fait des images. Les images les plus intéressantes, c'était dans un symbolisme où on ne savait même pas si ça représente le complot, ça représente le quotidien, ça représente... c'est un symbole qui n'est pas complètement pensé ou qui cache autre chose encore. Ou des fois, on a pris des photos et on s'est dit « Ah, waouh, celle-là, elle est magnifique !» Mais elle n'a jamais été prise avec l'idée de faire une image du complot. Donc c'est vraiment intéressant de travailler à travers l'image parce que oui, le complot peut-être existe dans cet espace fluide, bizarre, dans l'imaginaire dont on ne sait pas vraiment si on est honnête, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On en parle, on a un mot pour ça. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que Elara peut connaître mon imaginaire? Ou est-ce que moi, peux connaître l'imaginaire de Chloé? C'est très difficile à voir ce dont on parle. Donc, ce qui échappe est peut-être le plus important. Et c'est là où je trouve l'image intéressante. Pas par rapport à ce qu'elle capte, mais par rapport à ce qu'elle n'arrive pas à capter.
Les photos d'Aurélien Gillier, elles sont très, très évocatives. histoire, évocatrice, je ne sais pas si on... Il a un art de raconter vraiment des histoires et de suggérer l'ambivalence, l'ambiguïté, des moments d'attente, des moments de désir. Et je trouve que voilà, c'est particulièrement, il a un œil particulièrement intéressant sur Conakry. Bon, je serai plus bref, parce que moi, les images n'ont pas ce rôle-là dans mon texte. Moi, les images, elles servent à, dans le gros notamment, dans le résumé de mon enquête, à raconter des sources dont on pensait qu'elles étaient perdues, et ça, des deux pans de l'histoire. C'est-à-dire à la fois toute la rhétorique d'État, tout ce théâtre socialiste qu'on avait dit perdu, et donc remontrer, refaire surgir des pièces exhumées, du texte, de l'archive brute. Voilà. Et en même temps, des poèmes qui racontent les pendaisons publiques, qui racontent l'intime, la violence politique, les fractions de la violence politique dans la chambre. Ces archives-là, la matérialité d'un poème contre ces couturiers qu'on a écrit au crayon papier, parce qu'on a encore peur, même au crayon papier, de la violence d'État. Donc la matérialité de ces textes-là raconte cette ambivalence du quotidien, l'effrayant dans la maison, quoi. Voilà. Et ensuite, pour celui-là, il n'y a pas vraiment... Donc, il y a énormément d'iconographie, parce que ça a été un couple extrêmement iconographique. La seule, peut-être, sur le complot, c'est celle-ci, où il se forme au maniement des armes après le débarquement guinéo-portugais. Et donc, ils sont brandis dans la presse guinéenne comme preuve de la militarisation de la société, de l'appel à l'engagement dans la milice. Donc c'est peut-être la seule image documentant un post-complot ou documentant, si l'on veut, une mise en complot de la société.
Merci beaucoup. Alors justement, je rebondis sur l'un des termes que tu as employé, Lara, le théâtre. Ça fait un moment qu'on veut en parler, donc là, on va y revenir. Alors, petite mise en perspective, donc vous l'avez vu, on note dans ce que viennent de dire Yoshka et Lara, que leur recherche cherche à se frayer des chemins, ou en tout cas aller au-delà de ce qui se pratique habituellement, à la fois dans le cadre des recherches sur l'Afrique, mais aussi dans le cadre des recherches sur les imaginaires du complot. Et donc sur ce point, Elara, j'aimerais revenir un petit peu avec toi sur l'importance du théâtre dans tes recherches, parce que justement, lorsqu'on travaille sur les fictions occidentales traitant de complot, comme je l'ai fait, comme Sylvain l'a fait aussi, comme nous l'avons fait, ce sont souvent quand même les romans qui constituent le médium le plus répandu, au fil des époques. Alors bien sûr, au fil du temps s'ajoutent les films, les séries télé, etc. Mais justement, quand on se décentre un petit peu, comme nous essayons de le faire à présent, les perspectives culturelles changent souvent, en fait. Et notre rapport au genre littéraire, notamment, change. Et en l'occurrence, il est impossible, quand on travaille en littéraire sur l'Afrique subsaharienne, de ne pas prendre en compte le rôle fondamental du théâtre. Et ça fait bouger certaines lignes quand même. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce propos, Elara, et peut-être revenir sur ces mises en fiction de représentation du complot sur lesquelles tu es tombée dans les pièces de théâtre?
Oui, merci beaucoup. Alors, chaque année, la spécificité de la politique culturelle de Sékou Touré, ça a été un encadrement extrême de la population par et dans la culture. Et donc, chaque année, il y avait des grands festivals avec chaque fédération devait produire du théâtre, de la chanson, du folklore et toutes sortes de disciplines. Je me suis intéressée à retrouver qu'est-ce que les gens ont produit dans ces pièces de théâtre, c'était quoi les discours portés par chacune des régions. Une fois que les régions gagnaient, elles portaient leurs pièces gagnantes en compétition à Conakry. Et donc retrouver ces pièces gagnantes des grands festivals nationaux, c'était pour moi aussi retrouver ce dont les gens me parlaient. C'est-à-dire que la réussite de Sékou Touré et un observateur parmi ces festivals va en être vraiment très impressionné, c'est le jeune Frantz Fanon. Il va être impressionné par la ferveur populaire des gens qui viennent écouter ce théâtre-là. Pourquoi ? Contrairement, par exemple, au théâtre de Mobutu qui emmerde tout le monde. La question, c'est la sortie du français, c'est-à-dire que c'est des pièces qui sont entièrement multilingues. Ça ne veut pas dire qu'on tourne le dos au français, ça veut dire que le français est remis à la place du quotidien. Il peut intervenir dans les relations sociales, mais il est au milieu du manica, du soussou, du poulard. Et donc ces pièces sont éminemment multilingues, et donc en fait elles sont comprises. Contrairement à d'autres types de politiques publiques, qui ont été des politiques qui ont répercuté des politiques à la française, avec du théâtre à la française, qui en réalité du théâtre scolaire, qui était un théâtre d'apprentissage du français. Or, Sékou Touré fait le pari d'une renationalisation par les langues et Fanon va adorer ce type de théâtre. Il revient auprès du FLN avec la matrice de ce concept qui va être l'aliénation linguistique, comment le français charrie une hégémonie coloniale et comment se défaire de l'hégémonie coloniale sans penser ce que charrie la langue et notamment la langue du colon. Et tous les passages qui vont être chez Fanon centrés sur la langue française vont être dédiés à Fodeba Keïta, l'architecte des ballets africains et l'architecte ensuite de la politique publique du théâtre. Et ensuite, un des hommes forts du régime qui va mener la répression politique très loin jusqu'à finir lui-même au camp Boirou en 1969. Et donc, parmi ces pièces, bien sûr, on retrouve le complot. On retrouve le complot dans une pièce notamment qui s'appelle les 2 V, villa, voiture. C'est les archétypes de la réussite sociale et ce sont des pièces qui vilipendent ceux qui s'enrichissent sur le dos du peuple. Donc, c'est des pièces éminemment sociales, de dénonciation, de satire du capitalisme. Et puis, il y en a beaucoup de pièces historiques aussi qui sont des relectures de l'histoire nationale, parfois internationale. Il y a des pièces sur Soweto, sur l'Afrique du Sud, il y a des pièces sur Amilcar Cabral, mais il y a des pièces notamment qui ont l'air pas du tout complotistes et qui en fait sont des commentaires contemporains des complots qui viennent de se dérouler, notamment une des pièces sur un des fils de Samori Touré. Samori Touré, c'est un des résistants à la colonisation. Un de ses fils avait été envoyé en France dans le cadre d'un échange diplomatique. Lorsqu'il revient, la légende dit qu'il va alerter sur la démesure des armées en présence. Et faisant cela devant l'armée de Samori, Samori considère qu'il est coupable de haute trahison et de démoraliser l'armée et il l'enferme dans une case sans eau, sans nourriture. C'est la lecture contemporaine de ce qu'on appelle la diète noire dans le camp Boirou, c'est-à-dire l'enfermement et la manière on laisse mourir les gens dans les prisons politiques du camp Boirou. Or, cette pièce intervient en 1970 et en 1969, c'est le grand complot qui voit le plus proche parmi les proches du pouvoir, à savoir Fodeba Keïta, incarcéré, qui meurt en détention du régime de la diète noire. Or, ce que nous montre cette pièce, c'est qu'elle raconte certes l'histoire de la résistance à la colonisation, la trame principale, c'est le 19e, mais tout le monde sait, en 1970, que la pièce signifie « même les plus proches du régime peuvent tomber ». Faites attention à la manière dont vous vous comportez dans le contemporain. Donc c'est une pièce qui traite a priori d'une ligne narrative du 19e et qui, en réalité, raconte l'extrême contemporain qui s'est passé quelques mois avant. Si on a en tête que les gens dans les fédérations passaient un an à se regrouper ensemble, toutes classes confondues, et c'était ça l'idée du théâtre socialiste, c'est de mettre le directeur d'usine toute l'année avec un ouvrier, un instituteur, une ménagère, ça veut dire que dès le contemporain, ils ont imaginé cette trame-là pour parler du contemporain. Et ce qui est intéressant, c'est non seulement cette pièce raconte la répression, raconte le complot, raconte l'histoire nationale, mais c'est la manière dont les gens réagissent aussi. C'est-à-dire que les gens ne sont pas absolument passifs, et notamment, Sékou Touré s'est mis dans une colère noire lorsque l'acteur qui jouait le fils, Daoulen Karamoko, a trop bien joué sur scène, et les gens se sont mis à applaudir à tout rompre. Donc ce que ça raconte, c'est que certes, il y a une rhétorique du complot, par le haut, avec plusieurs strates de signification, mais ça raconte que les gens, dans le public et sur scène, ont des capacités d'action également face à ce que dit le texte. Et notamment, à un moment donné, de trop bien jouer le traître ou alors de trop bien recevoir le discours du traître. Donc, ce qui m'intéresse dans ces textes, c'est non seulement les textes, non seulement les retrouver, non, ils n'ont pas été perdus, oui, ils sont chez les gens, mais aussi comment on se souvient des passages qui ont été censurés. Que nous disent les colères politiques de Sékou Touré et comment on raconte un moment politique dans des moments qui sont très fragmentaires, c'est-à-dire le souvenir à un moment donné, quand on était gamin, d'avoir vu une pièce qui a mis en colère Sékou Touré, par exemple.
Dernière, vas-y, je te laisse la parole. Juste pour la dernière question, avant de vous laisser la parole et pour pouvoir échanger sur la recherche-création, la recherche-action, t'es plus...
En fait, là encore, tu as parlé de faire agir et d'insuffler dans une certaine mesure par les arts, et c'est tout aussi l'objet de ton travail à l'ARA, une forme d'énergie et voire d'appel à l'action dans tous les sens du terme au public. Et justement, alors dans la lignée de la question précédente, faut quand même mentionner, donc tu en as parlé rapidement à Elara, mais Elara ne cesse d'accomplir des performances collectives pour présenter ses travaux, notamment son avant-dernier essai qui est ici, tu pourras peut-être y revenir. Et donc là, pour élargir un petit peu tout ça, est-ce que vous pensez tous les deux, donc ce qu'on appelle la recherche-création, donc le fait d'articuler création et travail universitaire ou la recherche-action, vouloir notamment par des interventions pédagogiques faire advenir autre chose que des notes de bas de page dans un article, bon, est-ce que vous pensez que tout cela, que ça se fonde sur le théâtre ou sur d'autres types d'art, hein, c'est un outil indispensable pour les chercheurs et chercheuses d'aujourd'hui? Et je termine d'autant plus sur cette question que c'est quand même un petit peu aussi le but de cette rencontre qui va être enregistrée afin que d'autres collègues que celles et ceux qui se trouvent en France puissent aussi y accéder. Pour moi, c'est une forme de recherche-action aussi que de faire cela. Donc voilà, dernier mot-clé, recherche-création, recherche-action, puis on passera ensuite
aux questions. Je peux peut-être rebondir parce que la question faisait... allusion à la conférence performée qu'on a montée avec un romancier guinéen, un romancier ivoirien, pardon, qui s'appelle Armand Gauze et qui a la particularité d'avoir connu Harry Belafonte, qui est celui qui a mis en connexion Ahmed Sékou Touré, Carmichael et Myriam Makeba. Et donc, quand j'ai commencé à travailler chez Bocard Biro Touré, que tu connais bien, je lui avais dit avant de partir, voilà, je vais travailler dans les archives du fils de Carmichael. Et il m'avait dit, la clé, tu verras, c'est Belafonte. Et je lui avais dit, mais non, c'est pas la carrière états-unienne qui m'intéresse, justement, c'est la deuxième partie de sa vie. Et en compulsant les archives, je l'ai rappelé en disant, toutes mes excuses, t'avais raison, c'est la personne centrale des archives et tout. Donc, ça a été mon premier lecteur. Et ensuite, on a imaginé un format d'une heure dans des théâtres où je fais la narration et lui fait tous les passages que je cite, c'est-à-dire Marie Scondé, la période de Marie Scondé en Guinée, Djibril Tamsirnian, Myriam Makeba, Sékou Touré, Carmichael, et on repasse en les commentant les chansons de Myriam Makeba pour le label d'État Siliphone, parce que en fait Makeba c'est sans doute celle qu'on connaît le plus mais dont on n'écoute pas les paroles en fait, et donc on raconte ce qu'elle dit en Manica, en Soussou, en Poulain, on raconte en fait les éloges de la révolution sociale. Et on repasse également certains titres de ses performances avec Belafonte. Donc voilà, ça c'est un format qui est intéressant. Et ce qui nous touche beaucoup avec Gauze, c'est que les gens nous disent qu'ils ont souvent peur d'aller en conférence, mais que là ils ont tout compris. Et donc c'est vraiment nous ce qu'on a envie de produire aussi comme type de création. Alors je sais pas si c'est de la recherche-action, c'est-à-dire de la recherche-création, c'est-à-dire Gauze n'est pas venu avec moi, mais en tout cas c'est une recherche de longue durée qu'on a fait ensemble en compagnonnage. Sur la recherche à action, j'en ai fait dans le ciment de Doukou, qui est actuellement le cœur stratégique de la Guinée. Donc ça, c'est beaucoup plus dur et je ne pense pas que je sois capable d'en refaire. En revanche, se poser la question de l'impact de nos articles scientifiques, et je pense qu'on ne peut plus en fait ne faire seulement que des articles scientifiques à l'heure où les politiques publiques ne font que dire que les recherches en sciences sociales ne servent à rien. Je pense qu'il y a un vrai besoin de sciences sociales. C'est particulièrement vrai pour l'Afrique, je pense, parce qu'il y a un vrai besoin de documentation de ces archives, dont on dit qu'elles sont disparues alors qu'elles ne le sont pas. D'afro-descendants ici aussi, sur les discours d'une post-colonie globale, en fait, que peu sont à interroger. Et dans la réception à Conakry, évidemment.
Oui, je crois que tu as déjà beaucoup dit, Lara. Je crois que sur l'autre aspect de la réflexivité, c'est aussi important, c'est-à-dire de ne plus faire des recherches sur l'Afrique, mais d'avoir vraiment cette ambition de le faire dans le collectif, avec toutes les tensions aussi que ça implique. Je suis très d'accord que c'est pas du tout facile. Je me demande chaque fois, est-ce que je peux, est-ce que je suis la bonne personne de dire telle ou telle chose, ou de travailler sur l'Afrique du tout. Est-ce que la recherche de terrain, c'est pas quelque chose d'autant, avec tous les privilèges que j'ai de venir et de pouvoir partir. Mais je crois que je suis d'accord que ce sentiment d'être c'est l'incertitude, mais aussi un sentiment qui n'est pas toujours agréable. Et ça ne peut pas être agréable avec l'histoire qui l'histoire entre l'Europe et l'Afrique. Mais je crois que c'est justement, par exemple, je suis en train d'écrire une biographie. L'idée que la personne avec qui je l'écris et moi, on l'écrive ensemble et on le présente ensemble. Et on ne sera pas toujours en accord par rapport à sa vie. Et ce genre de conflit et de l'amener aussi à un public et de le faire publiquement. De ne pas que je ne m'approprie pas de la dédonnée que j'ai. Je crois que ça c'est indispensable. Moi aussi je saurais pas si on va l'appeler recherche d'action ou de créativité, mais je crois que c'est une sorte de recherche qui est importante, oui.
Merci beaucoup à tous les deux pour ces échanges très riches, passionnants. Écoutez, il nous reste du temps. Si certains, certaines souhaitent déjà, monsieur, au fond de... Il y a un petit micro qui va arriver, c'est juste pour qu'on entende bien.
Je pense que ça marche.
Bonsoir. En fait, merci pour vos interventions très, très enrichissantes. Pour le fiction et imaginaire du complot, moi je pense que le complot en géopolitique, il est réel. On peut pas. C'est la racine et c'est la base de la géopolitique, c'est le complot. Voilà. Il faut prendre de l'espace. Voilà. Par contre, le traitement des questions. Moi je prends le cas de la guerre d'Algérie par exemple. Le déclenchement de la guerre d'Algérie, il y a un complot égyptien, il y a Nasser qui aide, mais on ne peut pas nier les damnés de la terre, et on ne peut pas nier Fanon, voilà, c'est bicéphale. Ma deuxième, c'est sur ce qu'avait dit Yoshka sur le terrorisme, voilà, un complot terrorisme en Afrique subsaharienne. Le terrorisme, enfin, je parle du terrorisme islamiste, c'est un complot qui a un siècle. Maintenant, qui est derrière en Afrique subsaharienne, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais il y a un siècle, c'était les Britanniques pour l'Empire ottoman, puis contre les Soviétiques, c'est les Américains et toute cette forme d'Al-Qaïda, et toute cette, excusez-moi du terme, toute cette merde barbue qui se trimballe en Syrie, en Irak, en Libye, en Algérie. Donc c'est un complot, le terrorisme islamiste, c'est un complot impérialiste. Voilà, merci.
Prendre peut-être
une série.
Merci beaucoup pour vos présentations. C'est peut-être une question d'ordre conceptuel. Quelle est la différence entre l'acte de suspecter, parce qu'au Cameroun d'où je viens, on suspecte généralement l'opposition de déstabilisation contre l'ordre. L'opposition suspecte le gouvernement de mal gérer les fonds publics. Alors, quelle est la différence entre ces actes de soupçon, de suspicion et le complot et la pratique du complot? Voilà. Merci.
Je voulais poser peut-être des questions sur le complot dans l'histoire africaine en partant de la colonisation, car la colonisation a beaucoup utilisé le complot pour ses œuvres policières ou autres. En 1936, en France, on racontait, bien que c'était tout à fait le contraire de la ligne de Staline, que les Soviétiques étaient en train de préparer, avec le Front populaire, un massacre des Blancs en Afrique. Au Nigeria même, il y a eu... quelques années auparavant, ce qu'on a appelé la guerre des femmes, et la police anglaise aussi a découvert la main de Moscou dans la guerre des femmes. Or, les femmes qui ont manifesté pendant presque 3 ans en pays Igbo étaient des dames tout à fait respectables, qui connaissaient beaucoup de choses, mais qui ne connaissaient pas l'existence de Moscou ni de la Russie, et n'imaginaient même pas ce que pouvait être un agent étranger. Le complot a été un ressort de la domination coloniale extrêmement important. Et récemment encore, avant la mort de l'écrivain chinois Achebe, un Européen qui avait dû se soumettre donc à un complot colonial pour mettre au pouvoir au Nigeria non pas les meilleurs politiciens ou les plus engagés, ni syndicalistes ni les nationalistes sincères, mais ce qu'il y avait de plus corrompu. Et la façon dont cela a été organisé a été révélée par un des fonctionnaires. Il arrivait à la fin de sa vie, sa retraite était confortable, il a pris des risques et il a découvert Internet et il a dénoncé ce qui s'était passé aux élections de 59 au Nigeria, qui ont été très importantes pour l'indépendance et l'histoire du pays. Donc ce ressort de l'administration coloniale, qui en plus crée de la complotite, c'est-à-dire que diviser pour régner, c'est faire en sorte que les colonisés s'imaginent que les autres sont en train de montrer un complot contre eux. En Algérie, on appelait ça la bleuite, c'est-à-dire envoyer quelqu'un qui expliquait aux guérilleros algériens, aux frères, qu'ils étaient complètement infiltrés. Et il y a certains maquis qui sont devenus vraiment fous à cause de cela. Ça a été un succès, entre guillemets, un triste succès de l'administration coloniale par rapport à la révolution algérienne. Donc il y a un passé de complot, y compris dans le roman colonial. Et je crois aussi dans la psyché du colon, puisque il a devant lui un colonisé qui est un être non social, aussi non social que le juif, pour lui, c'est-à-dire il y a des relations entre l'antisémitisme et la haine raciale. Donc ce sont des gens non sociaux qui sont en train de comploter pour détruire toute société. Et c'est une vision du petit blanc et aussi de la police coloniale qui sont peut-être des choses qui ont eu une continuité après les indépendances, à fur et à mesure que certains régimes se durcissaient. Il serait peut-être important, et moi je n'ai pas pu le faire, de savoir quelle était la différence entre un gendarme avant 1960, l'indépendance, et juste après. J'ai pu le faire, par exemple, en Inde, où on m'a dit qu'il n'y a eu aucune différence, une confusion totale dans la tête des gendarmes qui arrêtaient les nationalistes avant l'indépendance et qui servaient les gens qu'ils avaient arrêtés tout de suite après, mais avec une position juridique et une conscience de leur devoir tout à fait inchangé. Donc des continuités comme ça seraient peut-être aussi parmi les causes de la complotite et de la bleuite en Afrique.
Merci. Alors, sur cette question du continuum entre suspicion et complot, je pense précisément que c'est un continuum de discours. C'est-à-dire, bien sûr que on va pas vous donner une recette où vous pourrez savoir quel est de l'ordre du complot et qu'est-ce qui est de l'ordre de la suspicion. Il me semble que ce qui est intéressant dans les pratiques que fait Yoshka et que j'essaye de faire dans le passé, c'est d'essayer de prendre au sérieux ces positions en tant que discours politique. Et ensuite, de travailler, de ne pas renoncer en sciences sociales à établir ce qu'on appelle vulgairement des faits, mais en tout cas, de ne pas renoncer non plus à ce qu'une certaine manière de faire de l'histoire positiviste, disons, a également fait. Mais simplement à d'élargir les possibles des discours narratifs a priori, et ensuite de discuter sur les effets sociaux de ces récits. C'était plutôt qu'on essayait de dire, me semble-t-il. Et sur cette question, encore une fois, d'un continuum et d'un continuum de pratique, entièrement d'accord avec vous, il me semble que ce que j'essayais de montrer sur cette frontière en 58, c'est une continuité de la France-Afrique, mais continue dès l'indépendance de la Guinée, c'est-à-dire la Guinée indépendante 2 ans avant les autres. L'opération Persil, c'est l'acte zéro de la France-Afrique. C'est-à-dire c'est le seul État indépendant de l'AOF n'obtiendra jamais une indépendance économique. Et on va tout faire pour. Et c'est le début du système Focard. et du système des Barbouzes. Sur effectivement la guerre des femmes et puis la mère de Fela Kuti, hein, Ransom Kuti, qui est une des grandes activistes de au Nigérien, la répression coloniale autour d'un soupçon communiste a été le grand motif des années 40, des années 50, et qui va se continuer dans le post-colonial. Mais il y a des contrepoints. C'est-à-dire qu'il y a une fabrication complotiste coloniale, mais en regard, il y a des rumeurs, il y a des résurgences. Comme par exemple, qu'est-ce qui a affolé les colons en 1895 ? C'est le Mahdi au Soudan. Le Mahdi est mort, mais il va ressurgir, il y aura des prophètes qui redeviendront Mahdi à leur tour. Et c'est pour ça que lorsqu'on emprisonne Samori Touré, on le fait circuler dans toute la OF en disant il n'y aura pas ce type de rumeur. Ce qui me semble qu'en réaction, disons, il n'y a jamais un discours complotiste unique. Il y a des contre-pouvoirs et les rumeurs populaires, notamment les prophétismes, ont été des très très forts vecteurs de contre-pouvoirs dans toute cette fabrique, disons, narrative coloniale. En tout cas, oui, il y a eu des complots de France-Afrique fabriqués dès le début. Au Niger, on a bourré les urnes pour que le Niger ne devienne pas indépendant en 58. Sinon, ils auraient tourné tout comme Sékou Touré. Le Sawaba, le mouvement socialiste nigérien, a été empêché personnellement d'exister par De Gaulle. Il y a des opérations similaires par la CIA contre les Black Panthers. On fait et on fabrique. C'est l'opération Cointelpro, elle est en ligne maintenant, des fausses lettres de dénonciation entre les Black Panthers pour qu'elles s'entretuent elles-mêmes. Donc, il y a des continuités de pratiques policières de part et d'autre de l'Atlantique d'une part, et de part et d'autre de la frontière politique des indépendances, qui n'est évidemment une indépendance qui a continué des mécanismes de répression tout à fait identiques.
Et peut-être juste pour rebondir rebondir sur ce que tu disais, Lara, sur la question du continuum entre les imaginaires de la suspicion et du complot, il me semble, et c'est ce que je pense qui ressort de cette discussion, penser ces éléments-là en termes de figuration narrative. Et je ne peux m'empêcher de citer Sylvain, donc, qui dans l'un des rares ouvrages interdisciplinaires en français sur le complotisme, dit « Mais qu'est-ce qui, in fine, distingue la figuration d'un complot de la figuration d'un projet secret concerté entre plusieurs individus ? Ben, un projet secret concerté entre plusieurs individus, ça peut être la préparation d'un anniversaire surprise. C'est pas un complot. Et ce qu'on a bien montré, je pense, c'est que cette idée qu'il y a une volonté de modeler le devenir socio-historique, une volonté politique, pour le dire de manière encore plus schématique, et qu'il y aurait quand même, en termes de figuration narrative, tout ça à la fois. Une concertation secrète entre au moins deux individus, un secret et une volonté de modeler la vie de la cité, et que c'est peut-être en termes de figuration narrative qu'on peut penser le passage d'un imaginaire du soupçon assez général qui peut infiltrer d'autres discours et la représentation, la figuration narrative d'un complot. Voilà, et je pense que le mot-clé récit est ici important. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvain, parce que je t'ai cité, mais es-tu d'accord ?
Je suis d'accord avec ma citation.
Peut-être juste pour ajouter à la première, au premier commentaire, une distinction qui est souvent faite, c'est la distinction en complot, c'est fait par des hommes. Tandis que les structures qui sont très souvent rendues actives ou pensées actives dans les sciences sociales ou politiques, c'est pas les personnes. C'est le capitalisme, c'est le colonialisme, c'est l'impérialisme. Ce qui devient intéressant dans le cadre colonial, c'est que c'est à la fois des réseaux de focards, par exemple, et ce sont des structures. Donc, tout d'un coup, cette distinction, elle marche moins bien que ce qu'on a l'habitude de comment distinguer une théorie du complot où on donne un peu trop de capacité aux êtres humains, parce que est-ce que vraiment un complot mondial puisse se faire sans que d'autres personnes sachent, sans les whistleblowers. Mais voilà, en fait, dans ce cas-là, on est un peu dans un entre-deux. C'est des structures coloniales et c'est des réseaux de renseignement qui sont aussi derrière. tout ça, ça s'est compliqué aussi avec toute l'affaire Epstein, où maintenant, je crois qu'il y a, un changement dans la façon de, concevoir les politiques. Sauf que c'est, un réseau caché, mais on ne sait pas véritablement qu'est-ce que ce réseau a décidé de faire. C'est juste que la possibilité apparemment de garder quelque chose en cachette est plus grande qu'on ne le pensait.
On peut continuer quelques, il y avait quelques questions encore ici et puis devant, je crois. Oui.
Merci pour ce séminaire. Bon, mon propos, je souhaiterais faire un commentaire pour, situer d'où je parle. Je suis enseignant de littérature générale et comparée à l'Université Philippe-Souët-Boigny. Comment je rencontre la question du complot? Je vais traiter une pensée, c'est pendant mes études doctorales à l'Université Blaise Pascal, aujourd'hui Clermont-Ferrand, avec l'arrivée de, Chloé. Une fois, on me disait, ouais, il y a une nouvelle arrivante à Blaise Pascal. Bon, moi, j'avais pratiquement fini ma thèse. Hein. Juste à 2 mois, je croyais l'arriver. En regardant son, CV scientifique, je vois la question. C'est une question de recherche intéressante, mais elle était adaptée au champ littéraire, je crois, occidental, elle, notamment sur la question de la franc-maçonnerie, ou je crois, si je me rappelle bien de la thématique. Donc moi, 3 ans après mon recrutement à l'Université Philosophie-Boigny, j'ai eu cette habilitation à encadrer des Master 2. Et des Master 1, donc je dis à un étudiant de Master 1 qui est très dynamique, je lui dis, y a une thématique très intéressante que j'ai rencontrée chez une chercheuse, c'est la question du complot. Est-ce si tu t'intéresserais, parce que dans l'univers, dans l'imaginaire scientifique africain, je n'ai pas vu encore de chercheurs travailler sur cette question. Mais formule le sujet ici, seuil et dévoilement du complot et de l'anticomplotisme dans la littérature postcoloniale. Parce que moi, après avoir lu les travaux de Chloé et certains travaux, je me disais, on reliait plus la notion du complot aux questions politiques. Or, moi, ayant travaillé sur la question du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda et en alliant après les nouveaux récits testimoniaux numériques et qui m'ont permis de travailler sur les questions d'intelligence artificielle et de littérature testimoniale numérique, je suis arrivé au fait, avec des lectures d'auteurs comme Jailu Amadou Amal, vous prenez le test, les tests d'Amadou Kourouma en Côte d'Ivoire, vous prenez le test, même des tests d'auteurs maliens, le complot peut être associé aux questions du genre et même aux questions religieuses. Donc, dans ce séminaire, je disais, vous qui avez travaillé, est-ce qu'aujourd'hui, on peut, dans l'historiographie, même de la réception même de ce dispositif narratif en littérature, quel est le genre particulier en Afrique francophone, l'Afrique francophone globale, hein, qui a permis de mettre au goût du jour vraiment ce dispositif-là, s'il y en a? Mais s'il n'y en a pas, est-ce qu'il serait possible, vous qui travaillez sur la question, de construire des séminaires peut-être conjoints ou des co-directions conjointes pour permettre véritablement que ce thème de recherche puisse connaître un véritable essor? Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que le complot peut être seulement relié à la question politique dans les littératures francophones africaines?
Merci beaucoup. Une question, oui, une dernière ou avant-dernière question, si, voilà. Donc, 2 dernières questions, juste devant, là, juste devant, madame, et puis après, monsieur derrière, et puis on s'arrêtera là. Enfin, on vous laissera répondre, évidemment, mais on s'arrêtera là ensuite.
Merci beaucoup d'apporter de l'incertitude dans un monde où tout le monde croit tout savoir. Donc, je trouve ça très intéressant, votre point de vue et vos questionnements. Alors j'ai une question, et c'est une vraie question, je veux dire, j'ai pas la réponse, donc je sais pas trop. Vous avez un peu opposé les complots en Afrique subsaharienne aux complots dans le nord global, en disant, enfin si j'ai bien compris, en Afrique subsaharienne c'est souvent lié à la géopolitique, au colonialisme, etc. Et je crois que c'est Yoshka qui a dit, dans le Nord, c'est souvent des complots de droite, anti-vax, 9-11, le grand remplacement. Et je me demande si, en fait, on peut faire cette séparation, si un peu partout en Afrique et ici et ailleurs, on n'utilise pas les complots aussi pour expliquer là où on a échoué. Je ne peux pas développer mon pays parce qu'il y a des complots. Je n'ai pas eu ce poste parce qu'il y a un complot. Notre économie ne va pas bien parce qu'il y a un complot. Et en ça, est-ce qu'on n'est pas un peu tous pareils? Ça veut dire, c'est vrai qu'il y a des dynamiques contre nous, mais aussi c'est un peu un moyen de dire en fait, d'expliquer un peu le fatalisme et presque la victimisation. Et ça, je ne pense pas que c'est spécifique à l'Afrique. Et aussi, peut-être qu'en Afrique aussi, il y a des complots que peut-être Yoshka qualifierait de droite. Par exemple, en Afrique, on entend souvent dire, ici, on n'a pas d'homosexuels, c'est les Blancs qui inventent ça pour nous détruire toutes nos valeurs. Et en ça, ça me fait penser un peu aux complots anti-vax ou un peu les complots d'extrême droite qu'on a ici. Donc, je pense... J'ai pas l'impression qu'il y ait une différence aussi importante. Et puis, merci, Yoshka, d'avoir parlé de Epstein, parce que pendant toute notre vie, quand on a tous eu des gens qui nous ont dit, il y a 5 gars qui décident tout, et ils sont juifs, et ils sont pédophiles, et on disait, mais t'es un débile mental, c'est n'importe quoi. Et en fait, c'était vrai. Alors, c'est nous qui avons l'air de débiles mentaux. Donc voilà, on sait plus. Est-ce que nous, on a que des complots droites et l'Afrique a des complots géopolitiques? Voilà, je pense que c'est pas aussi clair.
Merci beaucoup. Dernière intervention juste derrière. Après, on vous demandera juste quelques éléments de réponse et ça montre qu'en tout cas, c'est des sujets à creuser. Monsieur.
Okay. Merci. Moi, je voudrais juste savoir votre point de vue sur la Guinée, plus précisément, sur le complot. Est-ce que vous ne pensez pas que le processus de dévolution du pouvoir, c'est-à-dire les différents gouvernements qui se sont succédés au pouvoir, la façon dont, pour revenir, pour faire plus simple, la France s'est comportée, contribue à plutôt pointer un doigt accusateur sur la France. Et le dernier en cas, c'est le cas Alpha Condé, qui en a vécu 50 ans, voire plus en France. Et après un coup d'État effectué par un ancien légionnaire de la France, Alpha Condé se refuse de revenir en France, donc en renonçant à l'ensemble de ses droits. Et le processus de prise de pouvoir ce jour, il semblerait que la base arrière, c'était l'ambassade de la France qui est à quelques 100 mètres de la présidence. Et jusqu'à aujourd'hui, d'habitude, au temps du régime, on a des condamnations. Et récemment, zéro condamnation. D'ailleurs, ce jour où il y a eu le coup d'État le 5 septembre, à 22h, l'ancien président français a quitté Conakry dans le régulier Air France et la même nuit, il y a eu coup d'État. Nous ne trouvons pas d'explication. Et ça attise aussi ce sentiment de dire que l'ensemble des coups d'État réalisés, les pros, que c'est une réalité et que celui qui est derrière, c'est la France en général. C'est l'opinion quand même qui se partage beaucoup plus. Et pour revenir sur la question, si je peux me permettre, juste sur le cas des islamistes, je ne suis pas chercheur, mais pour avoir discuté un peu avec des amis qui accusaient souvent que la France contribuait au financement du terrorisme. Parce que je les demandais sur quoi ils se fondent. Ils m'ont dit, le Burkina ne fabrique pas d'armes, le Mali non plus, le Niger non plus. Mais sauf que les armes retrouvées avec les islamistes sont majoritairement de marque française. Comment ils le trouvent? Où ils le payent? Avec qui? Et pour avoir vécu en France, il m'a dit simplement, prendre l'exemple sur les attentats du Bataclan et de Nice et tout ce qui suit. La France a pu l'éradiquer en si peu de temps, en 10 ans, dans le nord de la France. Les réponses restent très mitigées. Donc, ça encore attise beaucoup ce sentiment-là. Merci.
Et donc là, ça va être la tâche la plus difficile pour clore ces rencontres. C'est de faire quelques éléments de réponses courtes, synthétiques, et pour lancer plus tard la discussion, mais pour clore ces rencontres. Yoshka, tu veux commencer? Non, Chloé, d'abord. Oui.
Juste en quelques mots, puis on pourra continuer à échanger après, Raoul. Mais oui, non. En l'occurrence, pour le coup, le roman est quand même assez fondateur pour l'Afrique francophone, mais pour les raisons qu'ont été aussi mentionnées par Elara, la diffusion a été en grande partie orchestrée, alors sans discours complotiste, depuis les maisons d'édition, donc en l'occurrence canadienne et puis française pour Kuruma, ce qui a pu contribuer à ce que ces discours recirculent. Mais oui, mais je suis tout à fait d'accord pour le séminaire partagé et tout cela. Il faut continuer et je te remercie d'en avoir parlé à tes masterants.
Merci. Et merci pour cette réponse synthétique. Yoska et Lara qui veut...
Je vais essayer. Pour Alcini, ta question, je vais commencer par cela avec Alpha Condé. Personnellement, j'ai trouvé toujours convaincant les gens qui ont étudié une chose pendant très longtemps et qui sont arrivés à l'avis contraire de ce qu'ils voulaient que soit vrai. En fait, ça, c'est beaucoup plus par rapport au soutien français au terrorisme dans le Sahel. J'ai eu les deux. Donc, j'ai eu un humanitaire français qui me disait, bon, quand même, il y a beaucoup de dealers d'armes français qui ont beaucoup profité de cette guerre. À quel point c'est systématique, on ne sait pas. J'ai un étudiant, un doctorant burkinabé qui était complètement du côté de Ibrahim Traoré, qui a fait sa thèse sur la guerre asymétrique au Burkina, qui a fini par dire que je n'ai pas trouvé de preuves. J'ai vraiment cherché que ce soit une guerre financée par la France. Donc, je m'arrêterai là, juste pour garder le suspense. Par rapport à Alpha Condé, oui, c'est extrêmement intéressant. Et encore une fois, le problème avec les sciences, c'est qu'on a besoin de preuves. Donc, les différentes, ce qu'il faut appeler coïncidence avant qu'on ait vraiment la possibilité de dire que oui, c'est une preuve pour que ce soit passé ainsi, c'est ça un peu le problème. Et c'est un problème surtout quand il s'agit des questions urgemment politiques. Pour retourner aussi à la question, est-ce que c'est seulement la politique? Je crois qu'on peut dire que c'est par rapport à la question du pouvoir. Le pouvoir, ça peut être financier, ça peut aussi être spirituel, religieux. N'importe quel genre de pouvoir fait partie de la question du complot. Mais ça devient problématique là où on a vraiment besoin d'une réponse. Mais le phénomène est tellement complexe qu'on ne peut pas dire quoi que ce soit avec certitude. Donc on est un peu piégé en tant que scientifique. C'est pour ça qu'on travaille avec les activistes et les artistes. Ce qui m'amène à la question de Cynthia. Je crois que l'idée du fatalisme, une explication pour le fatalisme, elle tient pour beaucoup de différentes manifestations de la théorie du complot. Mais en même temps, c'est aussi les puissants qui ont les théories du complot. Et là, ça devient une autre chose, ça devient très stratégique. D'ailleurs, on n'a jamais parlé de théorie du complot quand George Bush disait qu'il y a des « weapons of mass destruction » en Irak, tandis que c'était exactement ça. Mais c'était ça parce que ça venait d'une source du pouvoir. Donc je crois qu'il y a...
En revanche, on en parle pour Trump.
Oui, maintenant, oui.
Ça veut dire que Bush, ce n'est pas complotiste, alors que Trump est complotiste.
Oui, oui. Mais je crois que c'est aussi dû à l'histoire de Trump qui vient vraiment d'un milieu très complotiste. Mmh. Mais ça montre aussi que les choses sont en train de se mélanger d'une façon très radicale. Où je crois que cette idée au début que la théorie du complot c'est a priori une fausse est en train d'être révisitée et on comprend que dans un cadre, moi je pense beaucoup moins à Epstein et beaucoup plus à toute la clique de l'IA et des soi-disant tech bros qui sont en train de mener une politique de conspiration. Et beaucoup de la littérature actuelle le dit. Donc je crois qu'on voit beaucoup plus maintenant cet aspect de stratégie d'en haut pour manigancer et aussi s'aimer le complot dans les différents... Ça, c'était une importante intervention de montrer à quel point la complotite, elle fait partie d'un système et qui est très utile pour le pouvoir. Il y a plein de choses qui se mélangent actuellement et où peut-être l'ancien concept de la théorie du complot comme « Ah oui, c'est quelque chose des marges, c'est ceux qui veulent expliquer le mal dans le monde dont ils souffrent », ça ne suffira plus, à mon avis.
Et donc, si je puis me permettre, d'où l'intérêt de mêler nos efforts pour œuvrer à disséquer et puis peut-être opposer une résistance au plus nauséabond de ces récits. Je vois Elsa Vinet qui a eu la gentillesse de rester encore 5 minutes avec nous. On va peut-être poursuivre la discussion en dehors de la salle pour que la maison Henri Chaineux puisse aussi fermer et puis que nos collègues puissent aussi prendre un repos bien mérité. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à tous les deux, à tout le monde. Bon, j'étais un petit peu interrompue, mais on va continuer. Merci beaucoup. Et donc, cet entretien et les questions ont été enregistrés, donc seront mises en ligne d'ici un certain temps sur le site de la Maison Henri Chaineux, je pense sur la page de la rencontre. Donc, si vous le souhaitez, vous pourrez réécouter tout cela. N'hésitez pas à le transmettre à vos étudiants, étudiantes, collègues, proches, intéressés par le sujet. Donc, on vous remercie encore. Et encore merci à la Maison Henri Chaineux pour son accueil. Merci.